à qui est adressé le message des agriculteurs qui bloquent en ce moment les postes frontières et certaines routes ce matin à la Commission européenne ?
Ah, en tout cas, tous les décideurs politiques, et il est clair que dans leur domaine, les institutions européennes jouent un rôle absolument clé. Et donc forcément, c'est un message qu'on ne peut pas ne pas entendre.
C'est la pression des normes environnementales qui fait sortir de nouveau les tracteurs.
Alors, quand on écoute les agriculteurs, et il faut bien voir qui manifeste parmi les agriculteurs, c'est principalement l'agriculture familiale, pardon, qui manifeste. Les deux problèmes principaux qui sont soulevés, c'est un, le modèle économique qui empêche de gagner sa vie. Donc aujourd'hui, le modèle économique ne permet pas à un agriculteur familial de gagner sa vie décemment, et par ailleurs la charge, une charge bureaucratique qui n'arrête pas d'augmenter. Et ces deux problèmes-là sont réels, et on ne peut donc pas, je veux dire, faire arriver le Green Deal dans le monde agricole sans résoudre ces deux problèmes-là, parce que ça serait encore rajouter, évidemment, de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions à un monde agricole qui déjà a la tête, la bouche et le nez sous l'eau.
Ça veut dire que les objectifs sont inacceptables selon
pas
vous,
du tout.
En l'état actuel.
C'est le modèle économique qui est inacceptable, qui est juste inviable. Je dis, c'est quand même la seule profession au monde où on vous impose vos prix d'achat et vos prix de vente. Autrement dit, vous êtes complètement le jouet à la fois de vos fournisseurs et de vos clients. Et donc, si on ne règle pas ce problème-là, et par ailleurs, le fait que beaucoup de législations qu'on adopte, et quand je dis « on », c'est aussi bien le niveau européen que les niveaux nationaux, régionaux, on a, c'est vrai, une tendance fâcheuse à complexifier les législations, ce qui se traduit pour ceux qui sont en bout de chaîne, les agriculteurs, les infirmières, les enseignants, etc., à se transformer en bureaucrates. Et en général, ces gens-là n'ont pas signé pour cette profession-là pour devenir des bureaucrates.
Entre bureaucratie et normes environnementales, on a quand même des messages qui ont parfois été associés.
Ah, mais c'est évident.
Pendant la campagne électorale, cette colère, elle était dirigée contre les Verts.
Alors, il faut bien regarder comment ça s'est passé. La colère des agriculteurs a été instrumentalisée par les adversaires politiques. Regardez, ce sont les Verts qui sont la faute de tout ça, alors même que le Green Deal n'était pas encore arrivé, il n'est toujours pas arrivé.
Est-ce que ce n'est pas votre intransigeance qui était pointée du doigt?
Bien sûr, on nous prête évidemment l'image des talibans, des extrémistes. Moi, ce que je dis, c'est qu'avec les limites de la planète, on ne peut pas négocier. Il va falloir qu'on les respecte, sinon l'humanité disparaîtra de cette planète. Maintenant, il faut le fait d'une manière, évidemment, qui soit juste et qui permette à chacun de vivre une existence décente. C'est quand même ça l'objectif. Or, clairement, le monde agricole aujourd'hui, et ça date pas d'aujourd'hui, et ça date pas du Green Deal, est un monde en grande souffrance.
Et en quoi ce dossier-là, l'agriculture, c'est l'élément clé, justement, pour faire rimer encore normes environnementales et ambitions avec cette Commission européenne?
Alors, c'est pas le seul, mais c'est clairement un des angles morts du Green Deal pour le moment, dans le sens où, si vous voulez qu'on atteigne nos objectifs CO2, nos objectifs climat, il faut que l'agriculture et la forêt redeviennent ce qu'elles ont toujours été, c'est des puits de carbone. Autrement dit, que ces secteurs-là absorbent plus de carbone qu'ils n'en émettent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il va falloir corriger le tir. Ça, c'est très clair. Il y a d'autres angles morts. Le secteur financier en est un, qui est un des moteurs de l'exploitation à outrance de la planète et qui n'a toujours pas compris.
Donc, les efforts, c'est l'agriculture qui va sortir.
Pas seulement. Mais par contre, on ne pourra pas faire l'économie de faire arriver le Green Deal dans l'agriculture. Et donc, pour que ce soit possible, il faut, et la présidente de la Commission l'a commencé avec le dialogue stratégique sur l'agriculture, il faut mettre tous les interlocuteurs autour de la table, et elle l'a fait, donc en mettant à la fois les organisations représentatives agricoles et les ONG environnementales et différentes autres parties prenantes pour essayer d'arriver à trouver le chemin qui permettra de faire arriver la transition écologique dans le monde agricole, sachant que le monde agricole, en tout cas, moi, quand j'ai parlé sur la place du Luxembourg avec des agriculteurs en collet, j'en ai pas vu un qui disait qu'il fallait pas rendre plus durable notre agriculture. Ils sont tous convaincus. Maintenant, ils disent aujourd'hui nous trinquons un maximum et il faut que nous puissions vivre décemment.
Philippe Lambert, vous avez été donc nommé conseiller spécial de von der Leyen de la Commission européenne, de la présidence, pour justement faire en sorte que ce Green Deal ne sorte pas de la route complètement. C'est du greenwashing?
Non. Ça, je ne crois pas. Pour connaître les interlocuteurs, en particulier la présidente de la Commission, il faut rendre à César ce qui lui appartient, en l'occurrence à Ursula. C'est elle qui a lancé le Green Deal. Il n'y a personne d'autre. Sans elle, le Green Deal n'aurait pas été lancé. Et si son intention avait été de pure façade, elle a eu, avec la pandémie et la guerre, de parfaites occasions d'enterrer le Green Deal en disant « Écoutez les gars, maintenant non, c'est plus possible. »
Mais est-ce que ce n'est pas le cas, sauf qu'elle ne l'assume pas?
Comment elle ne l'assume pas?
Ben justement, est-ce qu'on n'est pas dans un monde en bascule où cette question du Green Deal va complètement passer à la trappe, vu la bascule industrielle, économique?
En tout cas, je n'aurais pas accepté son invitation à rejoindre l'équipe de la Commission si je n'avais pas été personnellement convaincu de sa volonté de pérenniser le Green Deal. Et par ailleurs, j'ai des raisons de croire qu'il y a moyen de trouver des majorités au Parlement européen et au Conseil pour poursuivre le Green Deal, pour autant, et c'est ça, c'est là que se trouve la clé, pour que le Green Deal se transforme en un instrument qui permette d'assurer la viabilité de l'économie européenne. Alors certains utilisent le terme de compétitivité. Clairement, on s'est fait larguer aussi par notre propre complaisance dans le secteur automobile, par exemple. Le secteur automobile a voulu se cramponner aux moteurs à combustion interne et il y a des concurrents qui ont émergé aux États-Unis et en Chine sur la voiture électrique. Et ça, c'est aussi quelque part parce qu'on n'a pas osé faire le pari de l'innovation. Et aujourd'hui, on le paye cher. Il ne faut pas que ça se reproduise dans tous les secteurs.
Ce ne sera pas ça la top priorité de la Commission, justement, cette industrie européenne face aux États-Unis.
Oui, mais de nouveau, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va assurer la pérennité de l'industrie européenne en se cramponnant au business model du XXe siècle? La réponse est non.
C'est vous qui allez jouer les équilibres, c'est là au milieu, justement, pour trouver ce
point. Je vais aider à trouver ces équilibres-là. Voilà, je ne prétends pas être un magicien, mais je pense avoir acquis quand même un crédit et un capital confiance au travers des frontières politiques, des frontières institutionnelles et avec la société civile pour pouvoir aider utilement à trouver les points d'équilibre.
Philippe Lambert, les agriculteurs protestent notamment contre le Mercosur qui n'est pas encore signé, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique latine qui permettrait notamment d'apporter des produits agricoles de ces pays d'Amérique latine. On a une question d'auditeur à propos de ce Mercosur. Il va bien au-delà de l'agriculteur, nous dit Richard. Quel est l'impact sur les autres secteurs? Que se passerait-il si on ne signe pas, considérant aussi que la Chine cherche à se positionner en Amérique du Sud? Autrement dit, si on ne signe pas, est-ce qu'on va perdre d'immenses marchés pour l'industrie européenne?
Alors, est-ce qu'on va perdre d'immenses marchés? Je ne pense pas qu'on va perdre d'immenses marchés. Il y a des opportunités de faire des affaires avec les pays du Mercosur. La question n'est pas là, c'est plutôt une question géopolitique en réalité. Et là, je pense que les Européens doivent prendre conscience, et je dirais en particulier avec l'élection de Trump aux États-Unis, que géopolitiquement, on est bien seul, d'accord ? Et que l'Union européenne n'a pas vraiment intérêt, connaissant notre degré de dépendance à l'égard du reste du monde, nous n'avons pas intérêt à nous fâcher avec tout le monde.
Donc ce serait une erreur de ne pas le signer, selon vous ?
Alors c'est de nouveau une équation extrêmement compliquée, parce que d'une part, on ne peut pas se fâcher avec tout le monde. Et Lula, le président du Brésil, peut affirmer à juste titre que le Brésil peut vendre 100% de sa production à la Chine, que le Brésil est intéressé à faire du business en Europe, mais il n'a pas besoin de l'Europe comme peut-être il y a 20 ans il pouvait en avoir besoin.
Les Verts se sont opposés quand même.
Oui, on est d'accord.
Mais vous opposez ou pas?
Mais donc,
vous êtes en train de changer de chemise.
Écoutez, je laisse aux Verts, j'ai un nouveau rôle aujourd'hui, je ne suis pas aujourd'hui le porte-parole des Verts là-dessus, mais mes positions sur le commerce international sont bien connues. Je dis simplement ceci, c'est que le problème qu'on a, donc je comprends la logique géopolitique qui consiste à dire ben, il faut trouver des alliés dans l'Est du monde, mais d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que le traité du Mercosur est un vestige d'une stratégie commerciale héritée du siècle dernier, ou des débuts de ce siècle-ci, donc ça fait plus de 20 ans qu'on négocie, et donc c'est encore un de ces traités qui fait de l'agriculture la variable d'ajustement.
Donc l'Europe le signera, selon vous?
Pardon?
Donc l'Europe le signera?
Je n'en sais rien, parce que les dangers sont extrêmement élevés. Donc imaginez que le traité du Mercosur soit signé en l'état et que ça accélère l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en France.
Mais ça, c'était un autre chapitre.
Non, ça n'est pas un autre chapitre.
Oui, mais ça va se développer.
Donc, quel est le prix politique que l'Union européenne paierait à faire passer en force ce traité?
Philippe Lambert.
Donc c'est un choix extrêmement cornélien.
Vous venez de dire qu'en fait vous ne représentez plus les Verts européens ni les Verts belges écolos. Vous avez pris clairement distance avec votre parti. Vous parlez d'un gâchis sans nom, ces élections.
Oui, tout à fait.
Ça veut dire que la rupture est consommée?
Non, moi je suis un écologiste, je le suis depuis 33 ans et je ne vais pas changer de casquette.
Vous êtes écolo du parti?
Ah, écoutez, je suis encore membre d'Écolo jusqu'à la fin de l'année, mais...
Reproche de ne pas avoir rétrocédé une partie de vos salaires, plus de 100 000 euros, c'est quand même...
Ben, un contrat, c'est un contrat, monsieur Gadisseux. Et les deux parties ont des obligations. Écolo n'a jamais rempli le début d'une obligation à mon égard pendant les 12 ans et demi de mandat.
Donc la rupture est consommée. En quoi c'est un gâchis, selon vous, la situation?
Regardez, enfin, je vais dire, si l'écologie politique était... représenter, enfin, les idées de l'écologie politique avaient été reprises, comme on le raconte souvent, par les autres partis. On pourrait dire « so what ». Le problème est que le projet de porté par l'écologie politique, d'une société plus juste, plus durable et plus démocratique. Ben non, il n'a pas été repris par les autres familles politiques. Tout le monde est écolo jusqu'au moment où ça coûte un centime à quelqu'un.
Donc et alors là, se ils s'envolent. Et uniquement.
Et donc, les écologistes sont une force politique absolument indispensable. Et le gâchis, c'est le fait que, quelque part, dans plusieurs pays, le 9 juin, les écolos n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire. On n'a pas été à la hauteur du défi. Et ça, il faut avoir un regard, en tout cas comme écologiste, moi c'est ce que j'ai dit à Écolo, il faut avoir un regard sans concession sur ce qui a fait que ce rendez-vous-là a été manqué et manqué gravement.
Et on verra si les autorités politiques sont à la hauteur du rendez-vous des agriculteurs.
Philippe Lamberts, donc, qui est devenu conseiller auprès de la présidente de la Commission européenne pour la poursuite du Green Deal, était notre invité. Merci beaucoup Philippe Lamberts.